Bonjour et bienvenue chers auditeurs de CFM à cette 12e émission d'Écoute Classique, soit l'anniversaire de l'émission qui souffle sa première bougie. Souhaitons qu'il y en ait beaucoup d'autres. Bonjour à tous les passionnés de musique. Je suis Jean-Paul Kerrer, le directeur de l'école de piano d'Arnac, et je vous propose un rendez-vous de musique classique sur CFM tous les mois. L'émission est diffusée les mercredis par quinzaine à 22h ainsi que tous les dimanches après-midi à 16h. Vous pourrez aussi réécouter l'émission sur le site de CFM www.cfmradio.fr, rubrique Écoute Classique. Je suis à vos côtés durant une heure pour vous faire découvrir des moments classiques, des compositeurs et partager ma modeste culture musicale avec vous, cher public, en vous proposant des écoutes classiques. Émission spéciale aujourd'hui, émission d'anniversaire. Nous avons amené le gâteau, la bougie, pour fêter avec Johan et l'équipe de Kélus cet anniversaire. Voilà. Je vous ai amené aussi un invité qui va nous parler de son métier, qui est le son, mais aussi de sa passion, la musique. Philippe, bonjour. Bienvenue dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Tout d'abord, Philippe, merci de vous présenter pour nos auditeurs.
Bonjour Jean-Paul. Merci de me recevoir dans votre émission. D'autant plus pour un anniversaire, ça fait plaisir. Et je suis musicien à l'origine. J'ai commencé à jouer de la guitare à l'adolescence, à une époque où je m'intéressais pas du tout à la musique classique. Avec l'âge, les choses ont changé. Je me suis intéressé au jazz et au classique, et puis finalement, je suis assez éclectique. Et bon, je joue pas de classique à la guitare. Hein. Faut pas rêver, c'est pas mon truc. Je suis pas à la hauteur de la situation. Actuellement, je joue encore de la guitare, évidemment, en studio, pour faire des sessions. Je travaille avec une chanteuse de Cahors que j'accompagne. J'ai plusieurs groupes de rock, dont un avec lequel je fais mes propres compos, qui datent, des compositions qui datent, qui ont presque 30 ans aussi, des trucs que j'avais écrits quand j'étais bien jeune. C'est rigolo de ressortir ça des cartons. Et question son, j'ai commencé à m'intéresser au métier du son au milieu des années 80, pour enregistrer mon propre groupe évidemment au départ, avec les moyennes du bord à l'époque. Et puis ensuite j'ai avancé dans cette chose-là qu'est le son, et le travail du son pour finalement m'enregistrer moi-même une démo un peu plus poussée au début des années 90. Et petit à petit, ben, j'ai enregistré les amis, les copains musiciens et les groupes du coin, les gens venaient me voir, voilà. Et donc ça fait 20 ans maintenant que je fais ce métier en parallèle avec la guitare, le métier du son. Voilà, depuis 93 à peu près, il me semble.
Donc 20 ans.
Ouais. Et depuis, ben, j'ai enregistré à peu près tous les styles, tout y est passé. Évidemment, dans le régional, il y a énormément de groupes de rock et de blues, donc c'est la prédominance. Mais on a aussi évidemment de la variété, de la chanson et du classique. Donc j'ai amené quelques disques que j'affectionne, et histoire de rester un peu dans le registre qui nous occupe aujourd'hui.
De l'émission et du classique, exactement. Formidable. Alors, que nous proposez-vous pour commencer ?
On va commencer par un groupe à moitié aveyronnais, à moitié figeacois, à moitié... sinon, c'est Aveyron-Lot, ouais, on va dire. Ça s'appelle Astor et à travers. Et c'est, comme son nom l'indique, c'est des morceaux de Astor Piazzolla. Mais il n'y a pas d'accordéon. C'est piano à queue, contrebasse, violon et chant. Thank you.
deseo con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Buena gente, su dignidad. Siento el sur como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur. Te quiero, sur. Te quiero. Al sur, como se vuelve siempre, siempre al amor. Vuelvo a vos con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur como un destino del corazón. Soy del sur como los aires del bandoneón. Te quiero, sur. Te quiero, sur. Te quiero.
Et après, donc, vous nous proposez une autre écoute.
Oui, rien à voir, on va changer. Un duo un peu particulier, c'est un duo de piano et de cloches en métal. C'est un duo de Lotois, qui a, c'est une des compositions, c'est un album qui a été écrit pour accompagner une pièce de théâtre, enfin, un spectacle un peu total, en fait. Il y a déjà quelques années, dont l'auteur s'appelle Jean-Marc Bonlaron, qui habite à l'Albenque d'ailleurs. Et cette pièce-là que j'ai choisie s'appelle Haut les cœurs, donc piano à queue et cloche, enregistrée au studio, sur le piano à queue du studio. Voilà.
Merci. Thank you. celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Je suis avec mon invité Philippe, ingénieur du son et musicien à Vertiga Studio à l'Albinque. Peut-être, Philippe, pourriez-vous présenter le studio ?
Je peux tout d'abord faire un petit rappel, une petite mise au point pour les auditeurs qui se posent des questions, qui se disent « Tiens, il y a un studio à l'Albinque, mais il me semble que je connais, mais... » Ça s'appelle pas Vertiga Studio.
Non, ça s'appelle Wake the Dead, réveiller les morts en traduction.
Ouais. Je crois que je vais pas partir là dans l'explication de ce nom un peu tordu qui date d'il y a 20 ans d'ailleurs. En fait, le studio a été longtemps une asso avec qui portait ce nom et c'est pour ça que je suis assez connu dans la région par ce nom-là et non pas par l'autre nom. Et l'autre nom, c'est tout simplement l'entreprise que gère ma femme, qui gère le studio et d'autres activités. L'entreprise date de 2004 et a repris les rênes du studio. En fait, l'asso n'existe plus, mais on a conservé le nom commercial parce que c'est là que les gens nous repèrent le plus facilement depuis 20 ans. Voilà. Et maintenant, on est depuis 15 ans à l'Albinque. On a restauré une grange, on a deux cabines de prise de son, une troisième en préparation. On a des matériels assez haut de gamme à force d'investir depuis le temps. Petit à petit, les choses se font petit à petit chez nous, mais bon, voilà, ça arrive. On a un bon parc de micros, on a des bons préamplis haut de gamme, et voilà, donc c'est assez bien équipé, avec un poste très important qui sont les écoutes, évidemment. On a une paire d'enceintes très très précises et très pointues qui... C'est du matériel assez haut de gamme et c'est le point le plus important, le point névralgique du studio. Parce que si on n'entend pas ce qu'on bricole avec le son, bon, c'est un peu ridicule.
Donc, ça change de la carte son de son petit PC.
Ouais, voilà, ça change. C'est la vraie vie par rapport aux sirènes du marketing qui expliquent qu'on peut faire un CD avec... Bon, avec un PC et une petite carte son, en fait, c'est un peu plus complexe que ça, quoi.
D'accord. Voilà. Alors, vous avez choisi de nous faire écouter, maintenant.
Oh, on va changer encore.
Oui.
Parce que là, on va écouter un artiste de Cahors, qui est marocain, qui s'appelle Bouziane Moulila, qui est une sommité en matière de musique marocaine et qui est très intéressant parce que très pédagogique, en fait. Il fait un peu comme vous, Jean-Paul. Il fait des disques avec des livrets qui expliquent.
D'accord.
Tout. Il aime bien aller dans les écoles, expliquer
sa
passion et comment ça fonctionne. Et donc là, on va écouter deux compositions. Il reprend aussi des titres comme dans le classique, des titres du répertoire, on va dire.
Traditionnel,
d'accord. Voilà. Et là, par contre, j'ai choisi des compos parce qu'à tant qu'à faire, faire écouter quelque chose, c'est bien aussi de faire écouter des compositions des gens. Et donc, on va écouter Noura, qui est une composition à l'oud, qui a été enregistrée dans une église. Et le second titre, le second extrait, c'est Les pas du chamelier. Et on change puisqu'on passe sur du ney, qui sont des. Le ney, c'est des flûtes en roseau que Bouziane fabrique lui-même. Donc c'est intéressant et toujours pareil, enregistré dans une église pour l'apport de l'acoustique du lieu. En fait.
Thank you. Thank you.
Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Je suis avec mon invité Philippe, ingénieur du son et musicien à Vertiga Studio à l'Albinque. Philippe, votre studio a un piano. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Il y a un peu plus de 5 ans, on a investi dans un piano à queue, un quart de queue, d'1m80. C'est un Kawai, modèle RX2. C'est un modèle récent, c'est un piano qu'on a acheté neuf. Et on a eu assez de chance parce que, bon, on ne savait pas trop où c'est qu'on allait. Il est assez agréable à écouter, il est très doux, il est très dynamique. Il est plutôt de race allemande par rapport, on va dire, à du Yamaha qui est un peu plus pointu dans le registre aigu. Et là, le Kawai est très très soft en fait, comme piano, il est très très agréable. Il est dans une très grande pièce, donc qui doit participer aussi au rendu un peu plus grandiose que s'il avait été dans une toute petite pièce de studio. En fait, on a choisi de l'installer dans une grande pièce qui sert au studio, aussi à la restauration des musiciens, aussi à la vie des musiciens. Et du coup, cette pièce, on peut l'aménager, on peut la couper par des rideaux, suivant ce qu'on enregistre, en fait. Le piano peut être soit au milieu du vide, soit enfermé plus ou moins dans des rideaux, par exemple pour des morceaux de variété où on n'a pas besoin d'une ambiance particulière comme d'autres morceaux de classiques, comme par exemple le titre qu'on a écouté, le duo piano-cloche. Ça a été fait sans rideau pour avoir le maximum d'ampleur au piano, voilà, par exemple. Donc ça fait quelques années maintenant qu'il est utilisé un peu pour de tout, de la variété, de la pop. Et malheureusement pas trop de classiques parce que il faut encore que je fasse connaître, que je sois meilleur commercial pour faire savoir aux gens qu'il y a un piano à l'Albinque, en fait.
Oui, voilà.
Et qu'il y a une belle combinaison piano studio dans la région, en fait.
Oui, il n'y a pas qu'à Paris, quoi.
Voilà.
D'accord. Bon, super. Alors, vous avez choisi de nous faire écouter l'ensemble baroque de Montauban.
Ouais, c'est. Alors là, ça n'a rien à voir avec le piano, malheureusement. Mais c'est pas grave, on peut mélanger les choses. C'est en 2003, je crois, de mémoire, j'avais été enregistré l'ensemble baroque de Montauban, dirigé par Jean-Marc Andrieux, à Montauban, dans une petite chapelle. Et voilà, j'ai choisi Salve Regina parce qu'il est chouette, il est magnifique ce morceau.
Thank you.
Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Je suis avec mon invité Philippe, ingénieur du son et musicien à Vertiga Studio à l'Albinque. Philippe, alors, question intéressante, même si je connais à peu près la réponse, mais pour le commun des mortels, pour nos auditeurs, comment fait-on pour enregistrer un disque? Quel niveau faut-il avoir pour oser contacter un studio d'enregistrement?
Je ne crois pas qu'il faille un niveau particulier, je crois qu'il faut de la passion et du plaisir, et puis avoir envie de se faire plaisir. Donc évidemment, suivant le niveau, on a un certain résultat. Et suivant le niveau, on ne pense pas toujours à aller en studio pour s'enregistrer. Puisque des jeunes qui démarrent dans la musique, ils ne connaissent pas automatiquement tous les rouages et toutes les choses qui existent dans ce milieu-là. Donc ils ne vont pas penser en premier à aller en studio. Mais pour autant, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau particulier. On peut recevoir des jeunes qui vont se faire plaisir pour chanter bon anniversaire à leur maman, comme des professionnels qui font un disque qui va être tiré à des milliers d'exemplaires. Il n'y a pas de règles. Après, il faut juste être réaliste, c'est-à-dire que suivant le niveau qu'on a, on va avoir un certain résultat. Donc peut-être qu'avec un niveau moins bon, on n'aura pas un disque aussi parfait que quelqu'un qui est un grand musicien. Voilà. Mais par contre, il n'y a pas de petit projet. Quel que soit le niveau des gens qui viennent en studio, il faut leur prêter attention et leur rendre un résultat le plus honnête possible par rapport à ce qu'ils savent faire. Il ne faut pas trop bricoler, mais il faut leur faire un joli produit, que les gens soient heureux toute leur vie de pouvoir réécouter ça, même en prenant en compte le stade où ils se trouvaient à l'époque où ils l'ont enregistré. Mais ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de regrets après l'enregistrement. Il faut faire le travail, que ce soit un amateur qui veut se faire plaisir à un professionnel qui veut faire un disque, il faut que ce soit nickel à la sortie.
Oui, parce que ce qui est gravé est gravé. Donc
et c'est gravé à vie, voilà. Et donc ça serait dommage après, 6 mois plus tard déjà, d'avoir des regrets sur ce qui est... sur ce qui est fait.
Ceci dit, il y a beaucoup de musiciens qui, 15 ans après, regrettent leur première.
En général, de toute façon, général, de toute façon, on n'aime pas trop.
Il y a l'évolution, la maturité qui vient aussi au fil des ans. Et...
En général, on n'aime pas trop se réécouter. Enfin, je parle pour moi.
Oui.
On trouve toujours quelque chose à redire, de toute façon. Là, je me place un peu du côté de la personne qui reçoit les artistes et j'essaye de. On essaye vraiment de les mettre à l'aise et qu'ils soient heureux d'être là, que ce soit pas une corvée, que ce soit pas quelque chose qui les gêne, qu'ils se sentent... Non, il faut que ce soit super cool pour qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes, quel que soit le style et puis quel que soit le niveau. Si c'est quelqu'un qui a pas un grand niveau, ben, il faut le mettre à l'aise et qu'il puisse réaliser son projet... dans les meilleures conditions possibles. C'est pour ça qu'on aime bien recevoir les artistes avant. Ils viennent visiter déjà, parce que le lieu est particulier. Le studio ne ressemble pas vraiment à un studio, on va dire, traditionnel. Donc il faut parler du projet, il faut voir comment ça marche, et puis il faut voir quelle va être la finalité, pour pas que les gens se fassent d'illusions d'un côté, et puis pour qu'ils se sentent vraiment à l'aise le jour où ils vont attaquer, ils arrivent en terrain connu.
D'accord.
Voilà.
Alors vous avez choisi de nous faire écouter...
J'ai choisi Grésal. Grésal, c'est un ensemble de musique baroque de Toulouse, de musique ancienne en fait, de musique avec des instruments anciens, et avec des percus, du luth justement... viol de gambe aussi pour certains titres, organito aussi pour d'autres titres, et chant bien évidemment. Et là j'ai choisi un titre qui a été enregistré au prieuré de Marcevol, c'est dans les Pyrénées, c'est en face le Mont Canigou, pour situer. On avait passé quelques jours là-bas pour l'enregistrement du disque. Quand on se lève le matin, on ouvre les volets et on a en face le Mont Canigou, c'est assez sympa. on n'est pas embêté par les voisins, en fait. Oui. Il n'y a personne là-bas. C'est vrai.
Ça aide.
On est embêté par le vent, par contre. C'était assez, assez folklorique d'enregistrer dans le prieuré parce qu'il y avait des fuites partout. Il a fallu boucher les portes, les fenêtres, les courants d'air et des couvertures parce que le vent soufflait et sifflait dans le prieuré. C'était assez rigolo. Et par contre, l'ambiance était terrible, évidemment. Moi, j'adore enregistrer dans les églises et ce genre de lieu. Il y a une ambiance particulière, il y a un son particulier, en fait. Et là, on va écouter Ave Nobilis, donc par Grésal, avec au chant Céline.
Pour celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Je suis avec mon invité Philippe, ingénieur du son et musicien à Vertiga Studio à l'Albinque. Philippe, la question la plus pertinente de l'émission, je pense, combien coûte un enregistrement ? On parle de choses pratiques, quel budget ? Qui peut enregistrer un disque où on a les moyens finalement en ces périodes de crise ?
Il n'y a pas de réponse à cette question. Merci, au revoir. Tout le monde peut enregistrer un disque. Hein. Donc, comme on parlait tout à l'heure, d'un gamin, d'un projet d'école, d'artiste confirmé, d'amateur simplement, n'importe. Le coût d'enregistrement, c'est un coût à la journée pour louer un studio. Suivant le projet, en fait, les gens vont se retrouver avec une facture plus ou moins élevée. Et ça peut aller d'un après-midi parce que quelqu'un a besoin de faire une prise de son de...
Pour chanter bon anniversaire voilà. Maman.
Voilà, ça peut aller de quelques heures à un mois de studio pour faire un album un peu plus produit.
D'accord.
Ça m'est pas arrivé souvent, mais ça arrive de temps en temps. La fourchette est très large en fait, suivant ce qu'on veut faire. Il m'arrive d'enregistrer sa part être mixée ailleurs. Il m'arrive de mixer quelque chose que j'ai pas enregistré. Il m'arrive de faire que du mastering, c'est-à-dire la touche finale du CD, des gens qui ont enregistré chez eux par leurs propres moyens. Et toutes les combinaisons sont possibles, en fait. Ce qui fait que c'est difficile de dire un budget. Par exemple, pour des professionnels, la différence, elle est de toute façon quand même énorme, puisqu'en fait, quelqu'un qui va enregistrer un instrument solo, par exemple, qui va en une journée faire toutes ses prises, après il y aura un peu de boulot de mixage, ça n'a rien à voir avec la production d'un album de pop ou de rock, où il y a un groupe au grand complet, basse, batterie, guitare, des chants, des chœurs, des machines, des solos, et des claviers et tout, et là on va y passer 15 jours rien que pour enregistrer, puis 15 jours rien que pour mixer, enfin, etc. Donc il n'y a pas vraiment de budget fixe, c'est quelque chose qui se discute avec les artistes. Quand on se rencontre, on discute du projet. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire et qu'est-ce que vous voulez au final ?
Et le nombre de prises de son, c'est important d'en prendre plusieurs
Ouais, c'est évidemment très important. Il ne faut pas lésiner. Il ne faut pas se contenter de quelque chose. Oh, oui, bon, ça ira, on verra au mix. Non, ça n'existe pas, ça, c'est pas vrai. C'est une légende. Le mix, il ne sera pas bon si on n'a pas une bonne prise de son. Et le mastering, il sera pas terrible si on n'a pas un bon mix. Voilà, les choses s'enchaînent, ça fait un peu comme les dominos. Si tout est nickel, même à la limite, le mastering, on n'en a même pas besoin. Quoi.
Oui.
Il faudrait même pas en avoir besoin. D'ailleurs, en classique, on masterise. C'est histoire de mettre des index quoi, sur un disque. Hein. On va pas commencer à faire des exploits Normalement, la prise de son est pas mal. Le mixage, il est réduit à sa plus simple expression parce qu'il n'y a pas grand-chose à mixer. Et le mastering, il est réduit à mettre des index. Et on peut mettre un index partout. On peut mettre des sous-index suivant les... Par exemple, dans des très longues pièces.
Ou des concertos en 4 ou 5 parties.
Voilà, on peut mettre des sous-index.
D'accord.
Et tout ça, c'est le travail. Là, on travaille sur des produits qui sont finis, sur des morceaux qui sont en stéréo et que, comme Monsieur Tout-le-Monde a dans sa chaîne Hi-Fi. Et sauf que là, on rajoute des informations sur ces masters qui permettent après, justement, aux chaînes Hi-Fi de lire le CD correctement,
d'accord,
de savoir où sont les titres.
Bon.
Combien de temps ça dure, etc. Et c'est ce master-là qui part à l'usine pour être dupliqué, en fait.
D'accord.
Pour être pressé. Alors, ça peut se résumer à, effectivement, juste poser les index et faire un travail propre de fade in et de fade out. Je ne sais pas le dire en français.
D'accord. Bon, ce sont des termes.
Voilà, c'est la fin de morceau, l'affaire chouette, et que le morceau se finisse bien.
D'accord.
Le début du morceau aussi, qu'il n'y ait pas trop de blanc entre l'index et la première note, ou que l'inverse, il n'y ait pas un index trop près de la première note, parce que certaines platines ne le lisent pas.
D'accord.
Enfin, certaines platines vont manger la première note du morceau. Donc il faut faire attention à ça. Il y a des règles à respecter de ce côté-là. Ça peut se limiter à ça, ou ça peut se limiter à un gros travail d'égalisation, de compression, parce qu'on reçoit... c'est un groupe de rock et il faut coller à la norme du moment. On a des références par rapport aux disques du marché. Et du coup, ce fichier stéréo, on va le bricoler pour que ça soit un peu dans la norme... que les gens qui écoutent ça soient pas surpris à l'écoute par rapport à ce qu'ils viennent juste d'écouter avant ou ce qu'ils vont écouter après.
Oui, ou si jamais ça passe à la radio, que ce soit nickel, trop fort.
Exactement.
D'accord.
Ça peut être un travail beaucoup plus long. Quand on masterise des disques de pop, on peut passer plusieurs jours même sur une quinzaine de titres, alors que mettre en place
un CD de piano, par exemple.
Un CD de piano, ça va être...
un après-midi.
Je ne sais même pas dire. Parce que si la prise de son du piano est nickel, on ne va rien faire de plus que de poser, de mettre les
index,
les titres dans l'ordre.
D'éditer le master final.
Exactement.
D'accord. Voilà. Alors, vous avez choisi de nous faire écouter, pour finir, donc...
On peut écouter, par exemple, on s'éloigne un peu du classique, mais ça peut être intéressant aussi. Donc c'est une artiste anglaise qui est de Souillac, qui s'appelle Jane Paris, et qui est accompagnée d'un guitariste qui s'appelle Bob, et d'un pianiste qui s'appelle Noël. Et c'est une reprise de Autumn Leaves, de Les Feuilles Mortes, en français, et qui est traitée pas du tout jazzy, mais c'est très intéressant aussi, c'est un peu... C'est une belle chanson.
D'accord.
Et puis il y a une petite surprise en plein milieu. Il y a un joli solo de piano.
Écoutons la chanson et la petite surprise.
Song But I miss you most of all, my darling. When autumn leaves start to fall, but I miss you most of all, my darling, when autumn leaves start to fall.
Celles et ceux qui nous rejoignent, vous êtes dans l'émission Écoute Classique sur CFM. Je suis avec mon invité Philippe, ingénieur du son et musicien à Vertiga Studio à l'Albinque. Alors Philippe, dernière question, parlez-nous des projets que vous avez donc avec l'école de piano, parce qu'il y a un directeur complètement dingue qui a ouvert une école de piano au fin fond de la campagne et qui s'est mis en tête de produire 2 disques par an et de les mettre en vente sur son site internet. Dites-nous en plus.
Eh oui, Jean-Paul. Eh oui. En fait, on s'est rencontrés pour l'enregistrement d'un disque de clavecin. Et j'ai découvert cet instrument à ce moment-là, en vrai. C'est les clavecins, on n'en croise pas tous les 4
oui,
matins.
C'est vrai.
J'ai croisé aussi un musicien passionné et motivé pour faire avancer ses projets. C'est un vrai plaisir. Et aussi, donc, comme je disais tout à l'heure, un peu comme Bouziane Moulila, quelqu'un qui aime partager ce qu'il sait, au sujet de ce qu'il sait. Par exemple, pour le CD de clavecin, je crois qu'il y a 8 pages d'un livret pédagogique qui explique tout de A à Z sur ce qu'on écoute. C'est, pour les néophytes, bon, c'est très bien, je trouve, c'est une super idée. Et puis, ça, c'est moins élitiste que moi, je joue du clavecin, et puis voilà, vous écoutez le clavecin.
Et point barre.
Et point barre. Là, c'est je joue du clavecin, mais je vous fais partager pourquoi et comment je joue du clavecin. Ça, c'est super. Et ensuite, on a masterisé un disque d'orgue, donc enregistré, je crois, par vos propres moyens à Montauban.
À l'arrache.
Mais avec 2 impros, donc ce qu'on appelle un single en anglais, un 2 titres. Un petit CD 2 titres avec 2 impros d'orgue, un peu, c'est un peu étrange, mais bon, c'est chouette. et en projet, il y a un disque de piano, je crois.
Oui, et puis un disque de Chopin, d'air de Noël.
Un disque de Chopin au piano, des airs de Noël aussi. Voilà. Ça se fera sans doute à l'époque de Noël.
Mais voilà.
Ouais, ça, c'est...
voilà.
Et puis voilà, on a d'autres projets. Un projet intéressant aussi pour les amateurs éclairés, on va dire. On va leur proposer aux pianistes d'enregistrer quelques pièces pour un budget très serré. Pour 100 euros, ils ont... je crois que vous allez proposer 2 heures de prise de son.
Voilà.
Et ils auront donc pendant 2 heures le piano pour eux. Et puis ils auront le CD à la sortie.
Voilà, pour ceux qui veulent se faire plaisir, enregistrer une sonate, une pièce qu'ils ont bien travaillée, eh bien, ce sera l'occasion de pousser soit la porte du studio, soit de l'école de piano. Et puis de venir profiter de vous et de prendre une prise de son et de repartir finalement avec son CD.
Ouais.
Voilà, tout en...
C'est un projet intéressant pour les gens qui se sentent pas capables ou qui n'y pensent pas, qui peuvent pas, qui se disent, bon, voilà, je joue du piano, mais qui gardent pas de souvenirs. Et en fait, si, on peut pour un budget raisonnable, garder un souvenir chouette, quoi.
Et faire venir le studio à l'école de piano, parce qu'on a quand même un piano qui en vaut le coup.
Il n'y a pas que, comme d'ailleurs pas mal de titres qu'on a pu écouter, il y a beaucoup de disques qui se font hors studio pour diverses raisons, pour des questions de place. Quand j'ai une bandas qui va enregistrer, qui sont 30, non, ça, il faut que c'est le studio qui va voir la bandas, c'est pas la bandas qui vient au studio. Ou dans le cas d'un orchestre classique, évidemment. C'est pareil, il y a la question de la taille du lieu, donc du nombre de gens qu'on peut recevoir. Et puis, il y a une question aussi, comme avec l'école de piano, le piano de concert qui est à l'école de piano est quand même chouette, donc ça vaut le coup d'aller faire une prise de son là-bas. Les groupes de jazz aussi, qui préfèrent enregistrer dans un lieu...
Atypique.
Et puis tous ensemble, en fait. Pas de studio au sens multipiste, mm-hmm. chacun son truc.
Il y a peut-être aussi l'ambiance qui fait quand on enregistre dans une chapelle, par exemple.
Et après, il y a les déplacements en église, en chapelle.
L'acoustique aussi.
À cause de l'acoustique, voilà.
C'est extraordinaire.
Ouais, à cause de l'acoustique et de du côté un peu mystique de la chose. C'est intéressant.
Bon, alors qu'est-ce qu'on finit par écouter quelque chose de mystique, peut-être?
On va finir avec... on va revenir sur Grésal, enregistré à l'église de Saint-Sulpice-sur-Vendinelle en 2004. Le titre s'appelle Eia Mater, et c'est un duo voix et cloche en terre. C'est malheureusement j'ai plus en tête les infos, c'est dommage parce que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un artisan qui fabrique des cloches en terre à la demande, et c'est très très fragile, ça s'accorde dans les ponçants.
D'accord.
il faut
c'est un
poncer.
Peu comme les gongs tibétains, ça s'accorde à la fonte.
Et il faut, en fait, là, on peut gratter la terre cuite pour changer l'accordage. C'est évidemment très fragile, mais c'est magnifique, quoi. Et là, le duo voix-cloche est vraiment chouette. Donc,
super.
Ça vaut le coup de finir avec ça. Il est c'est vraiment un très joli passage.
Merci. Bon, merci beaucoup Philippe d'être venu.
Ben, avec plaisir.
Donc pour celles et ceux qui nous rejoignent, nous sommes toujours sur CFM dans l'émission Écoute Classique. Merci d'être venu et de nous avoir fait partager votre métier, votre passion, et puis de nous avoir fait écouter vos propres enregistrements, soit dans votre studio, soit en prise extérieure, et peut-être donc à l'année prochaine pour fêter les 2 ans de l'émission, qui sait. Voilà, chers auditeurs, notre émission touche à sa fin, rediffusion tous les dimanches à 16h et le mercredi soir par quinzaine à 22h. N'oubliez pas d'aller visiter le site internet de l'École de Piano et sa boutique en ligne pour voir nos agendas. Notre agenda est réservé les prochains disques qui vont sortir. Donc on en a parlé, le disque de piano, des valses de Chopin et le disque de Noël, donc sur www.ecoledepiano.fr. Merci à CFM de consacrer son antenne à la redécouverte de nos œuvres et compositeurs classiques depuis maintenant 1 an. Merci à Joanne pour 1 an de patience. Et voilà, merci à vous, chers auditeurs. J'attends vos questions sur la musique, vos commentaires, et je vous dis au mois prochain. Au revoir.